Slate Podcast.
Bonjour, ce n'est plus Kétéran, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfert, qui depuis 3 ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute.
Je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop les histoires d'amitié. On ne nous prépare pas, dans les contes pour enfants, en littérature, au cinéma, on ne nous prépare pas au fait que nos grandes histoires d'amour, ce seront aussi des histoires d'amis. On nous dit « il faudra trouver un roi, une reine », on nous applaudit quand on annonce un mariage, des fiançailles, on y voit le signe que la vie plus jamais ne se fera seule. Mais rares sont les parents qui vous applaudissent quand vous ramenez vos premiers amis. Vous avez 8 ans, vous êtes dans les vestiaires d'un cours de danse, vous enlevez vos demi-pointes et vous parlez vraiment pour la première fois à celle qui sera de toutes les batailles, qui les mènera avec vous. Vous ne signerez jamais de contrat, ne partagerez jamais un lit ou un appartement, mais c'est avec elle que vous mangerez des petites carottes au tzatziki à 2h du matin, après un premier baiser. C'est lui que vous appellerez à 3h12, une nuit d'angoisse. Elle répondra à tous les SMS, à 4h, une nuit de rupture, décrochera à 7h, après un test de grossesse. Ces amis-là habiteront les nuits d'été sur la plage à construire le futur. Ils rempliront les silences, ils seront de tous les désastres et de tous les émerveillements. Ces amitiés-là peuvent tout, et leur influence transforme les vies. Elles ne doivent pas être prises à la légère, elles sont aussi importantes et peuvent être aussi dévastatrices que les histoires d'amour. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez Transfert, un podcast produit par Louis Média pour Slate.fr. L'histoire d'aujourd'hui est signée Hortense Chauvin.
Je dirais que je suis quelqu'un qui aime aider les autres, qui le fait très volontiers. Peut-être parce que c'est naturel et peut-être aussi parce que j'aimerais bien ou j'aurais bien aimé qu'on m'aide aussi à certains moments. Je rencontre Alice à la MJC de ma ville dans un cours de chant. Dans ce cours de chant, on est entre 6 et 8 personnes. Et Alice, c'est celle qui est la plus proche de moi, en fait, au niveau de l'âge. C'est la plus jeune. Moi, j'ai 16 ans à l'époque. Et elle a 14 ans. Sauf qu'elle a sauté une classe, donc elle est en seconde et moi en première. La première fois qu'elle rentre dans la salle, je la repère assez vite, donc par son âge, premièrement, mais aussi parce qu'elle dégage quelque chose. Elle a une aura, elle a un truc autour d'elle qui fait qu'on la regarde. Et elle est assez grande, du moins plus grande que moi. Elle est très fine, elle a une morphologie très très mince. Elle a un petit visage, des cheveux longs et surtout en fait elle a deux grands yeux au milieu de son visage qui captent bien l'attention. Et donc elle m'intrigue en fait. Je me dis que j'aimerais bien lui parler un peu plus et apprendre à la connaître. Et je me dis que ça pourrait être une des personnes avec qui je vais bien m'entendre cette année. Et le fait est qu'un des premiers exercices qu'on a à faire au cours de chant, c'est d'échanger tous des noms de groupes d'artistes, chanteurs, chanteuses qu'on aime bien. Et ensuite, chacun devra piocher dans les noms des autres pour trouver des chansons à chanter. Moi, je propose Indochine et Alice propose Grégory Lemarchal. Elle choisit donc ma proposition. Et moi, je connais un peu Grégory Lemarchal, j'ai entendu certaines chansons. Je me dis, pourquoi pas, ça peut bien coller à ma voix. Allez, on y va. Et donc, en fait, on commence à échanger à ce sujet-là pour se demander quelles sont les meilleures chansons, qu'est-ce qu'on pourrait chanter, qu'est-ce qui est facile. Et voilà, et donc, on choisit nos chansons. Et puis, finalement, on continue d'échanger. On passe plutôt au texto plutôt que Messenger. Ça devient un peu plus personnel. On commence vraiment à faire connaissance, en fait. Et on se rend compte qu'on est dans le même lycée, donc on peut se voir à ce moment-là, pendant les récrés, manger ensemble, se voir si on a des pauses. Voilà, on devient finalement de plus en plus proches. Enfin, notre amitié se développe assez naturellement. Et un soir, elle m'annonce qu'elle est malade, qu'elle est atteinte de mucoviscidose et qu'elle a été transplantée le 8 juillet 2011. Donc moi, la mucoviscidose, à ce moment-là, je sais déjà ce que c'est. Je sais que c'est une maladie génétique mortelle. Toutes les bactéries, les infections se développent beaucoup plus rapidement et en fait, ça détériore. Enfin, le système respiratoire se détériore au fur et à mesure. L'issue possible, à part la mort, c'est la greffe. C'est ce qui permet le plus de chance, enfin, ce qui amène le plus de chances de survie. Et sinon, voilà, c'est des traitements très très lourds. Donc voilà, moi, à ce moment-là, quand j'apprends ça, même si je connais la maladie, je sais ce que c'est, ça me fait très peur parce que voilà, justement, je connais. Donc je sais l'issue, je sais à quoi ça peut ressembler. En même temps, je ne vais pas arrêter de lui parler parce qu'elle est malade, hein, hors de question. Mais je me dis que notre amitié, elle va prendre une nouvelle forme. Elle va prendre il va y avoir un nouveau tournant. Il y a quelque chose qui change, qui se passe. Et puis, on est plus proche parce que c'est une autre dimension. Enfin, là, il y a un enjeu qui est quand même différent. Et donc, on se rapproche beaucoup à ce moment-là. Mais j'ai peur. Donc, à la fois, je me dis, elle est greffée, donc ça, normalement, ça va. Enfin, il n'y a pas de problème. La greffe, ça veut dire bonne santé. Mais j'ai quand même une partie de moi qui a très peur parce qu'on ne peut pas accueillir ça et n'en avoir rien à faire et pas le prendre en compte, en fait. Quelques semaines après, elle attrape une bronchite. Chose assez courante, finalement, en novembre pour tout le monde. Mais la bronchite ne passe pas et elle décline et elle développe une grosse infection, une surinfection même. Et ça commence à vraiment pas aller bien et moi j'ai vraiment peur à ce moment-là. Plus son état se détériore, plus on se rapproche d'une certaine manière parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été franchi, une barrière qui a été brisée, franchie. Là, on parle de mort, on parle de choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus tristes et beaucoup plus fortes. Et donc, forcément, ça prend des dimensions. Enfin, notre amitié prend vraiment une autre dimension que j'avais jamais eue avec quiconque avant. C'est profiter de chaque moment, c'est profiter de l'autre et être avec. Et voilà, enfin, c'est vraiment, ça devient très, très fusionnel à ce moment-là. Au moment où ça va vraiment pas pour elle, elle alterne en fait entre l'hôpital et le lycée. Donc le matin, elle fait sa journée de cours. Et le soir, elle part à l'hôpital où elle passe la nuit, elle a ses soins et elle repart le lendemain matin. Quand elle est à l'hôpital, on échange soit par texto, soit par Skype. Et sur Skype, quand elle a la vidéo, souvent elle a ses lunettes d'oxygène, chose à laquelle moi, j'ai jamais été confrontée. J'ai jamais eu personne avec de l'oxygène devant moi. Et c'est un élément nouveau que je dois un peu apprivoiser, qui fait peur, qui fait vraiment super peur parce que ça veut dire que sa capacité respiratoire n'est pas bonne, ça veut dire que potentiellement elle va de moins en moins bien et que potentiellement donc la fin se rapproche en fait. Et d'un côté, je me sens toujours obligée de dédramatiser, d'espérer, parce qu'on ne peut pas désespérer dans ces moments-là, ce n'est pas possible. Et on essaye de trouver un peu des petites astuces pour rendre ça un peu moins tragique. On prend beaucoup de photos où elle fait des grimaces avec ses lunettes d'oxygène. Et après, on fait des montages qu'on partage juste entre nous. Et c'est marrant et ça rend les choses un peu plus faciles, même si ce n'est jamais facile, mais c'est un peu plus drôle. C'est une manière de changer un peu de perspective. Parfois aussi, j'ai sa maman qui va m'envoyer des messages pour me tenir un peu au courant. Donc, quand Alice ne peut plus parce qu'elle a un soin ou quoi que ce soit, elle passe son téléphone à sa mère qui va me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. En décembre, son état se détériore de plus en plus. Et pendant les vacances de Noël, elle va être hospitalisée. Et à ce moment-là, il y a un soir en particulier où on a peur que son cœur lâche parce qu'elle est trop faible et que l'infection est trop forte pour son corps. Et j'échange ce soir-là beaucoup avec sa maman. Je suis avec ma famille, donc mes parents, ma sœur. Et on est devant la télé. On regarde Madagascar 2. Et en fait, elle me tient au courant et on se rassure beaucoup. Et moi, je suis devant un dessin animé, donc ça n'a absolument... Il y a un contraste énorme entre ce que je regarde, ce que j'écris, ce que je vis, ce que je ressens. Et je me retrouve vraiment enfermée. C'est vraiment une sensation d'enfermement et d'angoisse, de tristesse, mais de quelque chose qui ne peut pas sortir. Il y a un nœud, c'est un énorme nœud au ventre, dans les poumons, un peu partout. J'ai probablement les doigts qui tremblent. Enfin, j'ai jamais ressenti ça à ce moment-là. Enfin, c'est, je me dis, ça y est, elle va mourir. Finalement, son état va s'améliorer. Elle va rester hospitalisée pendant les vacances et elle va pouvoir ressortir et reprendre le rythme lycée le jour, hospitalisation la nuit à partir de janvier. Et par contre, ce qui est nouveau à ce moment-là, début janvier, quand on rentre, ils vont décider, donc Alice et sa famille, ils vont autoriser en fait le kiné respiratoire d'Alice à me donner des nouvelles. Donc en fait, le kiné respiratoire, donc c'est l'un des traitements, la kinésithérapie respiratoire, l'un des traitements chez un patient atteint de mucoviscidose. Et donc ce kiné, Franck, la suit depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a 2 ans et demi, donc il la connaît très très bien. Et c'est lui qui prend le relais à partir de janvier pour me tenir au courant dans les situations compliquées. Franck, c'est une figure entre le paternel et l'amical. C'est paternel dans le sens où il a quand même une autorité. C'est en plus, voilà, c'est quelqu'un du corps médical. Enfin, il a, voilà, quand même une autorité. C'est un adulte, etc. Mais c'est aussi un ami parce qu'il y a cet aspect de confidence. Des fois, on rigole ensemble. Il y a un côté assez proche, en fait. Donc, c'est vraiment les deux facettes. Notre amitié, à ce moment-là, elle prend un peu encore une nouvelle forme. Donc, on a eu la phase, déjà d'apprendre qu'elle était malade, le rapprochement, etc. Et là, c'est encore autre chose. Ça nous rapproche encore plus. Enfin, c'est vrai, c'est presque de la dépendance, en fait, finalement. Parce que ça nous rapproche énormément. Enfin, c'est vraiment une situation où il faut être vigilant sur tout. Voilà, là, c'est clairement, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucune frontière. Enfin, on est vraiment collés l'une à l'autre. C'est vraiment une grosse, grosse fusion qui se met en place. À la mi-janvier, je suis au lycée, je vais à mon cours de sport, à mon cours de basket, et je reçois un message de Franck qui m'annonce qu'Alice n'en a plus que pour un mois, parce que son état ne va pas mieux, elle va pas mieux, et les médecins lui disent... un mois à vivre. Et moi, bon, je fonds en larmes. Et une des premières choses que je me dis, c'est « Mais dans un mois, c'est mon anniversaire. » Je suis née le 22 février. Je me dis « C'est pas possible, en fait. » Et c'est très égoïste, peut-être. À ce moment-là, je me dis « Je suis horrible de penser ça. » Mais d'un côté, c'est mon anniversaire. Et j'ai pas envie qu'elle meure le jour de mon anniversaire. C'est pas possible. Enfin, si elle meurt le jour de mon anniversaire, je vais jamais m'en remettre. On peut pas vivre ça. c'est pas possible. Donc, je suis désespérée à ce moment-là. Et je pleure énormément, je suis dans les vestiaires, j'ai quelques amis qui sont autour, qui essayent un peu de me réconforter, mais je viens d'apprendre que ce dont j'avais le plus peur arrive, et qu'elle va mourir, et que c'est bientôt. Et je sais pas comment je vais survivre à ça. Donc j'ai cette annonce. Et puis, il faut quand même se remettre en jambe, et puis il faut l'aider, et puis il faut profiter de chaque jour jusque-là, en fait. Si ça doit être dans un mois, on va rire, on va chanter, on va s'aimer, on va se prendre très fort dans les bras, on va se dire des belles choses, et puis ça va aller. Donc février se passe un peu comme ça, la fin du mois de janvier, début février. Et puis moi, pour mon anniversaire, j'avais réservé des billets pour partir en Allemagne quelques mois auparavant. Donc l'Allemagne, j'ai fait mon échange de mai à juillet 2011. J'ai de très bons amis et je voulais absolument passer mon anniversaire là-bas. Donc je pars le 18 février. Et le 22 février, donc le jour de mon anniversaire, je fais la fête, je vois des amis. Et le soir, on est au restaurant avec toute la famille de ma corresse. On mange, on rigole. Et je reçois un message d'Alice. On rentre. Je monte dans la chambre, je lis le message et en fait, là, elle m'explique que ses poumons lâchent, qu'elle va être placée sous respirateur artificiel et que le lendemain, elle va être mise dans un coma artificiel pour que son corps ait du répit parce que c'est trop lourd, la surinfection est trop forte, elle peut plus se battre en fait. Donc elle finit le message en me souhaitant un bon anniversaire. À ce moment-là, j'explose. Je me dis, mais comment je peux passer un bon anniversaire? En fait, c'est horrible d'un côté de me dire ça. Enfin, c'est affreux. Donc, mon anniversaire, bon, bien entendu, il est gâché. Je passe la fin de ma soirée à pleurer, à être vraiment très, très mal. Et le lendemain, donc le 23 février, c'était un jeudi, et ma correspondante est malade. Donc, elle peut pas aller au lycée. Et donc, on reste à la maison. Et moi, c'est parfait parce que je peux parler comme ça avec Alice. Donc, je parle avec elle jusqu'à ce que ce soit plus possible, jusqu'à ce que Franck soit obligé de prendre le relais. Et vers midi, 1h, elle est placée en coma. Et là, je passe l'après-midi à échanger par écrit, via Skype, avec Franck. Moi, j'ai la vidéo et le son parce que je chante des chansons. J'ai ma guitare avec moi et je me mets devant mon ordi et je chante les chansons qu'on avait l'habitude de chanter ensemble parce que l'ordinateur est dans la chambre avec elle et que voilà, je me dis tout ce qu'on raconte sur les gens qui sont dans le coma, ils entendent. Bah voilà, ça se trouve, elle va m'entendre et ça va lui faire du bien. Et la fin d'après-midi, Franck me dit, écoute, voilà, les médecins ont fait des examens. On ne détecte pas d'activité cérébrale. Et en fait, je tombe par terre. Je tombe par terre à ce moment-là. Je hurle, je pleure. Et j'ai un truc qui se casse à l'intérieur, qui part, qui se brise. Et je tombe vraiment par terre. Je tombe de la chaise en hurlant. Je me relève et là, il m'explique que bon, c'est juste un examen qu'on lui a bien expliqué que parfois, c'était même pas qu'il n'y avait plus d'activité cérébrale, c'est juste qu'on ne pouvait pas le détecter, mais que ça peut revenir. Que voilà, il y a un pourcentage de chances pour que ça revienne dans l'heure, qu'ils arrivent à détecter un peu plus tard. Et donc, je passe la soirée à pleurer. À pleurer, à parler beaucoup, beaucoup. Je parle dans le vide, plus ou moins, mais je parle et je lui dis qu'elle n'a pas le droit de partir, qu'elle n'a pas le droit de me laisser. Je chante des chansons, j'en chante, je sais pas, je dois chanter 15 fois en boucle Mistral gagnant qu'on chantait toutes les deux. Je fais tout ce que je peux, en fait, pour la stimuler, pour qu'elle m'entende. Pour qu'elle se dise qu'il faut qu'elle reste parce que je suis là et qu'il ne faut pas qu'elle parte. Et quelques heures après, il me dit en fait que... Donc Franck me dit qu'elle a serré son poing et elle a pleuré. Et donc ça veut dire qu'il y a de l'activité cérébrale et que c'est grâce à moi, que c'est moi qui l'ai sauvée, que c'est moi qui l'ai suffisamment stimulée pour qu'elle réagisse. Et que voilà, enfin, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire et que grâce à moi, ça va aller. Finalement, elle est réanimée, elle se stabilise, elle arrive à s'en sortir et quelques jours, semaines après, elle peut retourner au lycée. Les choses reviennent plus ou moins à la normale et 2 mois environ après son hospitalisation, donc à la mi-avril, elle m'annonce que Franck, son kiné, est atteint d'un cancer du pancréas au stade quasiment final et que donc il va mourir quelques semaines plus tard. Et c'est ce qui se passe. Le 14 mai, Franck décède. Je suis avec Alice quand elle l'apprend. On est très mal toutes les deux à ce moment-là. Moi, je me sens absolument pas légitime dans ma tristesse, alors je suis effondrée. Je perds un espace, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me rassure. Mais je me sens pas du tout légitime parce que je l'ai jamais rencontrée. Je lui ai juste parlé par message. Alors qu'elle, c'est son kiné depuis qu'elle a 2 ans et demi. Elle le connaît très bien, ils sont très très proches. Donc forcément, elle a plus de droit en soi d'être triste. Et moi, pourquoi je me plains? Enfin, je le connais pas. Et donc, très rapidement, j'enterre un peu tout ça, tout ce que je ressens. Et je me dis qu'en fait, le plus important, c'est pas du tout que je sois triste. Ça, c'est pas grave. Mais il faut que je la relève. Parce que si je la relève pas, ça va se répercuter sur son physique. Et ça va aller de nouveau mal. Et elle va jamais tenir le coup, en fait. Donc, il faut que je l'aide au maximum. Et donc, ok, je vais le faire. Après la mort de Franck, je commence les insomnies et je plonge en fait au fur et à mesure dans la dépression. Je me rends compte que tout ce qui s'est passé avec l'hospitalisation, la mort cérébrale d'Alice quelques mois auparavant est trop lourd et que j'arrive pas à gérer, j'arrive pas à faire le deuil. Il y a trop d'émotions, des émotions que j'ai pas non plus envie de ressentir parce que ça fait tellement mal que je veux pas en fait, je refuse de les ressentir. Je me sens très seule vis-à-vis de ça. Il y a plus Franck. Franck n'est plus là. Et donc, ça m'enlève aussi un espace où j'aurais pu vider tout ça. Et ça va de moins en moins bien. Je me renferme beaucoup. Je m'éteins. Je commence en septembre, donc quelques mois après la mort de Franck. Je mange de moins en moins. Au lycée, je saute les repas à la cantine. Je préfère rester travailler au CDI. Du moins, c'est un peu l'excuse que je donne et que je me donne aussi à moi-même. Et je me coupe au fur et à mesure de beaucoup de monde, sauf Alice qui reste, qui voit aussi tout ça. Elle va mieux à ce moment-là. Elle est quand même dans une bonne phase niveau santé. Et sauf que voilà, cette fois-ci, c'est moi qui perds complètement pied. Je tombe très rapidement à 40 kilos. On me diagnostique aussi très rapidement une anorexie. Et en fait, je me sens un peu... Enfin, c'est très, très compliqué notre relation à ce moment-là. Parce que d'un côté, je lui en veux. Je me sens affreuse de dire ça. Je lui en veux parce que pour moi, c'est clairement lié à tout ce qu'on a vécu. Ces derniers mois, je sais que l'hospitalisation, je sais que voilà, ce moment où je suis tombée par terre, je sais que ça a déclenché, je sais que c'est un déclencheur de la dépression, de l'anorexie, je sais qu'il y avait eu trop d'émotions à ce moment-là que je ne pouvais pas gérer et c'est ce qui fait que je me retrouve dans cet état-là quelques mois après. Donc je lui en veux énormément, mais d'un côté, comment lui en vouloir d'être malade? Enfin, je peux pas, c'est horrible de dire ça, de reprocher à quelqu'un d'avoir la mucoviscidose, chose qu'elle n'a pas choisie, qu'elle préférait ne pas avoir. Et donc, je me retrouve dans une situation très, très particulière où Alice est la seule personne que je peux, entre guillemets, supporter. Et à la fois, je voudrais juste qu'elle ne soit pas là parce que je lui en veux d'être malade, je lui en veux de m'avoir fait vivre tout ça. Et on développe une relation très... un peu toxique en fait, ça devient un peu malsain, un peu toxique parce qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de reproches, mais à la fois je sais que je peux la repousser parce qu'elle reviendra, mais il y a des moments où je veux vraiment qu'elle s'en aille, je veux vraiment qu'elle parte parce que je lui en veux beaucoup trop. Et il y a quelques moments comme ça où j'arrive, où je coupe, où je lui parle pas, mais ça finit toujours par se remettre en place, je reviens vers elle, elle revient vers moi, parce que si jamais... elle ne va pas bien, ça peut se répercuter sur son physique. Et moi, il est hors de question que je laisse passer ça. Enfin, je m'en voudrais toute ma vie si elle meurt parce que je n'ai pas été là, parce que je n'ai pas été capable de l'aider. À cette époque-là, on se dispute aussi beaucoup parce qu'en plus de tout le reste, je suis devenue très jalouse et très possessive parce qu'en fait, elle développe des amitiés donc avec certaines de mes amies à moi. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle leur donne la place que moi, j'avais. Et ça, c'est impossible parce qu'à ce moment-là, je me dis que je me suis quasiment tuée pour elle, je me suis rendue malade pour elle et qu'elle n'a pas le droit de donner ma place à quelqu'un d'autre après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai enduré pour elle. C'est presque ingrat, en fait. J'ai l'impression qu'elle me dit « Oui, mais bon, c'était pas si important finalement, t'es pas si indispensable que ça, je peux trouver quelqu'un d'autre et lui donner ta place. » Alors que j'ai toujours eu cet aspect de « Oh, tu es si spéciale et je ne peux pas faire les choses sans toi, je ne peux pas avancer sans toi. » Et là, je me rends compte qu'en fait, elle peut donner exactement la même place à quelqu'un d'autre et que je suis pas si importante que ça. Et moi, je le vis très très mal. Je me dis que c'est pas possible. Donc, je lui fais des crises de jalousie comme je n'ai jamais fait parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de jaloux et possessif. Et je suis affreuse. Je peux être infecte. Et je lui en veux. Il y a beaucoup de ressentiments et c'est très très compliqué à gérer au quotidien. En septembre 2013, je rentre en première année de licence d'allemand à Paris. Et donc, je suis toujours malade. Ça va même de moins en moins bien. Et je finis par faire un malaise un jour en cours et par accepter l'hospitalisation qu'on m'avait proposée quelques mois auparavant. Et donc, je rentre à l'hôpital en janvier 2014. Pour en ressortir en mars. Et à cette époque-là, Alice, son rôle, elle, c'est de faire le lien. Donc elle revient vraiment au rang de meilleure amie, d'amie. Enfin, elle est très au courant de tout ce qui se passe. On est de nouveau très proches. Donc voilà, elle est très présente, en fait, de manière assez indirecte, mais très présente au moment de mon hospitalisation. Le jour de ma sortie, elle vient me voir chez mes parents. C'est la première personne que je revois après l'hôpital. Et je me souviens encore du moment où elle passe la porte. Je la vois, je lui saute dans les bras. On se serre très, très, très fort. On se dit qu'on s'aime. Et moi, je suis juste heureuse d'être là, heureuse d'être avec elle, heureuse d'être en vie, heureuse de la voir en bonne santé, parce qu'elle est en bonne santé à ce moment-là. Donc, je suis contente. Et on passe l'après-midi ensemble à rire pendant des heures sans s'arrêter. Et c'est juste bien, en fait. Après tout ce qui s'est passé, c'est juste bien. À ce moment-là, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'amitié qu'on a. Je me dis qu'on peut repartir sur vraiment de bonnes bases parce que moi, je vais mieux et que j'ai moins... Voilà, il y a moins... Je me dis à ce moment-là qu'il y a moins d'éléments toxiques, en fait, que comme je vais mieux, notre relation, forcément, ça va aller mieux et qu'on peut repartir sur de vraies bonnes bases saines. Et donc, elle va bien, moi, je vais bien. Donc, on va avoir une sorte de nouvelle relation qui va être bien. Finalement, j'arrive à me sortir de la dépression et de l'anorexie parce que je suis bien entourée, parce que j'ai plein de nouveaux projets. Je commence la comédie musicale quelques mois après ma sortie. Je reprends une première année de licence, donc je me recrée aussi tout un cercle. Je suis beaucoup plus ouverte, je rencontre des gens aussi qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas la Louise malade, qui ne connaissent pas la Louise dont la meilleure amie est malade. Et donc c'est vraiment... Il y a plein de choses que je peux faire, que je peux dire. Je peux être quelqu'un, pas quelqu'un d'autre, parce que je reste moi et voilà. Mais c'est une nouvelle aussi facette de ma personnalité. C'est des personnes qui sont là dans cette nouvelle Louise. Et c'est hyper agréable, en fait. C'est vraiment... Ça change complètement. À cette époque-là, Alice, elle est encore au lycée. C'est son année l'année de son bac, donc sa dernière année. Et c'est vrai que moi, autant j'évolue beaucoup, je change, je me développe, si on peut dire ça comme ça. Et elle, bah, elle est toujours au lycée. Il y a toujours un peu ce même... quotidien, etc. Il y a un gros décalage. Elle m'en veut aussi d'avoir de nouveaux amis, d'être plus indépendante. Et donc, en fait, on repart dans un schéma assez, assez toxique, en fait, de gros hauts, de grands bas. Et j'étouffe beaucoup, surtout avec voilà, toutes ces nouvelles opportunités, toutes ces nouvelles expériences. Ça a quelque chose, elle me tire un peu, en fait, vers l'arrière, vers le passé et vers des choses pas très joyeuses. Et donc, je prends de plus en plus d'indépendance à ce niveau-là. Je me concentre. Voilà, j'ai une très, très, très bonne amie à la fac. On est très proches. Mais c'est une relation très saine pour le coup. Enfin, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort. Et ça me fait du bien. Et donc, plus je m'éloigne d'Alice, et plus ça va, en fait. Et plus je me découvre autrement. En septembre 2015, je commence ma deuxième année de licence. Et je m'installe en colocation à Paris, ce qui fait qu'on a de plus en plus de distance entre Alice et moi. Je rentre seulement de temps en temps le week-end chez mes parents, donc je la vois beaucoup moins. Et je m'épanouis de plus en plus. Elle me tire toujours en fait vers le bas et vers le passé. notre relation est de plus en plus toxique, c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de bas. Ça s'accumule. Et en janvier 2016, à peu près, j'explose. Ça fait trop pour moi et je décide de tout couper, d'arrêter de lui parler. J'étouffe vraiment. Enfin, c'est une relation qui m'apporte plus rien de positif, qui commence à me rendre de nouveau mal. Et c'est devenu trop toxique. Et c'est pour ça vraiment que je coupe tout. Quelques mois après avoir tout coupé avec Alice, en mars 2016, elle revient vers moi et elle m'explique que son état s'est détérioré et qu'elle est sur liste d'attente de greffe. Et moi, à ce moment-là, je ne me pose pas vraiment la question et je me dis que je vais y aller et que je vais l'aider. Même si je sais à ce moment-là pertinemment que c'est toxique, que c'est pas bon, que ça ne va pas me faire du bien, j'y vais parce que je me dis à ce moment-là que je ne me le pardonnerai jamais s'il lui arrivait quelque chose et que je n'étais pas là pour lui tenir la main. Je ne pourrais pas me regarder dans un miroir, je ne pourrais pas. Je sais qu'elle a besoin de moi, je sais que je suis la seule personne qui peut être là comme il faut être là. Et je me dis que j'y vais et tant pis. Tant pis si c'est mal, tant pis si ça me fait du mal, j'y vais quand même. Quelques mois après, donc en juin à peu près, un soir où je suis à une scène ouverte, donc à Paris, dans un bar, voilà, scène ouverte, je chante, je suis avec des amis et je reçois un message d'elle m'annonçant qu'elle n'est plus seulement sur liste de greffe, mais sur liste de greffe d'urgence. Donc c'est-à-dire que peu importe quand un greffon arrive, elle est prioritaire et c'est pour elle. Et là, tout s'arrête alors que je suis entourée d'amis, de musique, il y a des gens qui parlent, etc. Et là, il n'y a plus rien, je me déconnecte. Je dis à un ami très proche que ça ne va pas. Et là, je lui explique et je pleure et je lui dis qu'en fait, je ne peux pas. En fait, c'est trop dur, ça fait trop mal, que je ne peux pas le refaire, que ça m'avait trop demandé la première fois, que ça va me tuer en fait, que juste ça va me tuer. Et d'un côté, même si je dis ça, je sais très bien, pertinemment, que je vais aller jusqu'au bout et que si ça doit me remettre dans l'état que ça m'a mis la dernière fois, je le ferai parce que c'est Alice et que je peux pas la laisser et que c'est notre relation et que c'est comme ça et que je peux pas la laisser partir sans être là. Début juillet, elle part à Lyon et son état se dégrade assez rapidement. Elle est obligée d'être hospitalisée sur place. Et moi, je suis tenue au courant par un membre de sa famille qui m'envoie des mails. Mais voilà, il y a des périodes de coma qui s'enchaînent et ça va vraiment pas. Jusqu'au 21 juillet, où en gros, elle m'explique que si la greffe n'arrive pas ce jour-là, elle ne passera pas la nuit. Et donc, voilà, il faut vraiment la greffe à un certain nombre d'heures pour arriver. Et donc là, je me dis, OK, c'est quand même très peu probable que la greffe arrive parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. Et OK, ça va se terminer là maintenant. Et en fait, je suis à Paris. Je suis dans mon appartement. Mon coloc n'est pas là. Je suis toute seule et je suis assise sur le canapé. Il y a des bougies un peu partout. Et je lui parle, on s'échange des textos, on s'écrit. Et c'est très calme, c'est très doux. Elle me parle de plein de choses, on se dit beaucoup qu'on s'aime. C'est dur, mais ça va, et surtout c'est calme, et ça se passe bien. Donc je veille toute la nuit, et finalement, à 1h53, elle m'envoie un message en me disant qu'une greffe est arrivée. Et qu'elle doit être transportée d'urgence par hélicoptère à Foch, donc à Suresnes. Moi, à ce moment-là, je m'effondre, je pleure, je lâche tout ce que j'ai pas lâché en fait pendant la soirée où j'étais très calme. Et je lâche tout. Et puis je vais me coucher. Et surtout que le lendemain, moi, je prends un train pour un week-end chez une amie à Cannes. Je pars le lendemain matin. L'opération se fait. L'opération se passe bien. Et moi, pour la première fois depuis assez longtemps, je peux vraiment me poser. En fait, pendant ce week-end, je, je recharge les batteries, je prends toujours des nouvelles, je suis au courant des évolutions de sa rémission en quelque sorte. Et voilà, je me repose à ce moment-là, je souffle. Le 25 juillet, je rentre de mon week-end à Cannes, j'arrive gare de Lyon à Paris. Je prends le métro pour rentrer chez moi, comme toute personne le ferait. Et dans le métro, je suis assise et ma mère m'appelle. Et bon, je trouve ça un petit peu bizarre, mais je me dis qu'elle veut prendre de mes nouvelles parce qu'elle veut savoir comment le voyage s'est passé, donc je réponds. Et là, elle me demande où je suis. Donc je lui dis, écoute, je suis dans le métro, en train de rentrer. Elle me demande si j'arrive bientôt. Je lui dis, quand même non, j'ai encore un changement, 25 minutes. Et elle me demande si je suis assise. Donc là, je commence à me dire, il y a un truc qui ne va pas. Donc je lui dis, oui, je suis assise, qu'est-ce qu'il y a? Je lui demande si c'est mon grand-père. Je lui dis, ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose. Je lui demande si c'est ma sœur, si c'est mon père, si c'est elle, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Elle me dit, non, c'est pas grand-père, c'est pas ta sœur, c'est pas papa, c'est pas moi. Et là, elle me dit, c'est Alice. Et là, moi, je me dis que j'ai raté un truc. J'ai pas eu de message récent pour me tenir au courant. Et je me dis, ça se trouve, j'ai loupé quelque chose. Y a eu quelque chose qui s'est passé et Alice est morte. Et donc, je lui dis, quoi, Alice? Et là, elle me dit, écoute, Louise, Alice n'est pas à Foch. Et je lui dis, mais comment ça, Alice n'est pas à Foch? Elle est où, Alice? Et elle me dit, Louise, Alice n'est pas à l'hôpital. Et là, je lui dis, comment ça, elle n'est pas à l'hôpital? Comment ça? Louise, Alice n'est pas à l'hôpital parce qu'Alice n'est pas malade. Alice n'a pas la mucoviscidose, elle n'a pas été greffée. Elle t'a menti. Et là, je ne pleure pas. Je suis complètement abasourdie. Alors en plus, je suis dans le métro, je suis entourée de plein de gens et je ne peux pas me mettre à exploser non plus. Mais je suis pas bien. Je comprends pas. Enfin, je comprends sans comprendre. Je m'en doutais dans le sens. Au moment où elle me l'a dit, j'attendais sa réponse, mais même en l'entendant, j'y crois pas. Et c'est complètement, enfin, c'est, il y a une sorte de faille, un truc qui se passe. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends sans comprendre, je veux pas comprendre. C'est tout s'embrouille. Et c'est le moment de mon changement. Je sors du métro et là, je hurle. Je lui dis, mais comment ça, elle est pas malade? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle a raconté? Et en fait, une des premières choses que je dis à ma mère, c'est « Mais tu te rends compte que je me suis rendue malade pour elle. Je me suis rendue malade, j'ai failli mourir pour elle. » Et je hurle ça dans les couloirs du métro. Voilà. Et ma mère me dit « Écoute, appelle la mère de Lucas, c'est elle qui a tout découvert et elle aura toutes les réponses à tes questions, donc appelle-la. » Et la mère de Lucas, c'est la maman d'un petit garçon qui est décédé de la mucoviscidose en 2013. Et on l'a rencontrée, donc cette maman, quelques années auparavant. On est devenus assez proches, donc Alice, moi et elle. Et en fait, donc je l'appelle et elle m'explique très rapidement qu'elle n'a pas du tout cru, en fait, une seule seconde à la greffe. Tout simplement parce que la greffe, elle l'a vécue avec son fils. Son fils a été greffé. Et donc, il y avait beaucoup d'incohérences, notamment le transport en hélicoptère. Elle m'explique que ça, c'est juste pas possible. Tout ce qui était le compte à rebours en attendant la greffe et d'autres petites précisions médicales que moi, je ne maîtrise pas du tout parce que c'est pas mon domaine. Je n'ai rien à voir avec la médecine. Et elle, en tant que témoin direct de la chose, elle connaissait très bien et elle savait très bien que c'était complètement impossible. Et donc, elle a décidé d'appeler l'hôpital Foch et de demander s'il y avait une Alice enregistrée quelque part, enfin, si elle était à l'hôpital. Et on lui a répondu bien que non, il n'y avait pas d'Alice. Mmh. je raccroche et je me rends compte en fait que tout est faux, que 5 ans de ma vie sont faux, partent en fumée, qu'Alice m'a menti, qu'elle n'a jamais été malade et que toute cette relation n'est basée sur rien, en fait, sur du vent, sur quelque chose qui n'existe pas. Et je rentre chez moi comme ça, j'arrive à mon appartement, je ferme la porte, je m'enferme en double tour et je commence à angoisser énormément. Et ça tourne beaucoup, je réfléchis beaucoup et j'ai peur. J'ai peur de sa réaction parce que je me dis qu'elle va forcément se rendre compte, il va falloir qu'on crève l'abcès à un moment donné. Et je me dis, c'est quand même aussi 5 ans de sa vie qui sont basés sur des mensonges, quelque chose qu'elle a construit assez intelligemment finalement. Et je me demande quelle va être sa réaction quand elle va comprendre que tout ça s'effondre, qu'elle n'a plus de base en fait. Et surtout quand elle va se rendre compte qu'elle va me perdre parce que je ne peux pas rester. Et est-ce qu'elle va vouloir se tuer? Peut-être qu'elle va vouloir se tuer. Peut-être qu'elle va vouloir me prendre avec elle. Et je panique. Je redeviens une petite fille en fait. Ce soir-là, je n'arrive pas à dormir, la lumière éteinte. J'ai la lumière allumée, je m'endors très 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 tard. Vraiment, c'est de l'angoisse, de la peur. Je me mets enfin à pleurer. J'appelle un ami et c'est à ce moment-là en fait où je pleure vraiment et où je me dis mais enfin qu'est-ce qui va se passer ? C'est vraiment ce truc de mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'avais déjà eu des doutes par le passé que j'avais plus ou moins ignoré ou du moins mis de côté. En fait, quand j'ai commencé à être très très mal en 2012, quand j'ai vraiment fait la dépression, le début d'anorexie, il y a un jour où je me suis effondrée en larmes en cours et on m'a emmenée à l'infirmerie. À ce moment-là, j'ai expliqué voilà, à l'infirmière que je ne mangeais pas, que je ne dormais pas. Comme toute bonne infirmière, elle m'a dit de lui expliquer un peu plus. Et une des premières choses que j'avais dites, c'était j'ai ma meilleure amie atteinte de mucoviscidose et il y a quelques mois, elle a failli mourir. Et elle m'avait demandé si cette amie était au lycée. Je lui ai répondu que oui. Et elle m'a demandé j'avais un nom. Donc, je lui ai donné le nom d'Alice. Et à ce moment-là, elle m'a dit, écoutez, on n'a pas du tout de personne à ce nom-là de répertorié à l'infirmerie. Et je me revois envoyer un message à Alice, folle de rage, alors que j'étais allongée dans le lit d'infirmerie pour me reposer. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as pas la muco? Qu'est-ce que tu m'as raconté? C'est n'importe quoi. Et elle me dit, mais non, mais arrête, tu sais très bien que je ne veux pas que ça se sache. Et j'ai déjà eu des problèmes parce que des personnes sont venues à l'infirmerie demander des renseignements. Et donc, j'ai bien dit aux infirmières qu'elles n'avaient pas le droit de parler de moi et que si jamais quelqu'un évoquait ma maladie ou quoi que ce soit, il fallait qu'elles leur disent que je n'existais pas, en fait, que je n'étais pas dans le système. Et tu sais très bien que je ne veux pas que ça se sache, que je ne veux pas en parler. Et c'est vrai, c'était toujours dû... il ne faut pas en parler, c'est secret, je ne veux pas que les gens me perçoivent autrement, etc. Et donc à ce moment-là, je l'ai cru. Je me suis dit, bon, ok, là, c'est vrai, c'est cohérent, c'est vrai qu'elle est comme ça, d'accord, ok, elle est vraiment malade. Et puis, il y avait aussi Franck, ça m'avait quand même... c'était très gros. Et essayé de chercher un acte de décès que j'avais jamais trouvé... J'avais des doutes, mais à chaque fois, je me disais la même chose. C'était que j'étais horrible, que comment est-ce que je pouvais remettre en doute ces dires. Enfin, c'est quelque chose d'horrible, mais personne ne ferait ça. Enfin, c'est quelque chose de tellement énorme et j'avais vu tellement de choses. On avait vécu tellement de choses que c'était impossible qu'elle me mente. Et donc, j'étais vraiment une personne horrible, en fait, de penser ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai balayé les doutes en me disant « Non, c'est moi, enfin, c'est juste moi. » Je passe le mois d'août à enquêter, en fait, à chercher à démêler tous les mensonges qu'elle a pu monter, qu'elle a pu construire. Donc déjà, je commence par me rapprocher d'autres victimes, d'amis à elle, avec qui je n'étais pas forcément moi en contact, mais je me rapproche d'elle. On recoupe en fait les versions. Et c'est là où on se rend compte que bon, il y a quand même des incohérences. Je me rends compte aussi que donc Franck n'a jamais existé. et que donc les messages que j'ai pu recevoir de Franck étaient en réalité des messages d'Alice. Pendant donc voilà, les messages Skype, tout ça, c'était elle du début à la fin. Je me rends compte également que je n'ai jamais échangé avec ses parents, du moins avec sa mère, parce que c'était la seule interlocutrice que j'avais. Je n'ai jamais échangé avec elle. Encore une fois, c'était Alice. Je me rends compte également que les lunettes à oxygène, certaines ont été alors probablement récupérées dans l'un de ses stages parce qu'elle faisait des études d'infirmière. Donc, il y a probablement des lunettes qui ont été prises à ce moment-là. Mais en tout cas, dans tous les cas, je me rends compte aussi que voilà, il y avait rien non plus au bout de ses lunettes. Et que c'était vraiment... Enfin, voilà, elle s'était construite tout un réseau, tout un nid de mensonges, en fait, que je passe, moi, mon mois d'août à le décortiquer. Plus j'en découvre et plus j'ai peur. C'est vraiment, ça me glace, en fait. On décide, avec un groupe d'amis, un groupe de victimes, d'aller au commissariat et de voir une assistante sociale pour essayer de faire quelque chose, de porter plainte, notamment. Mais à chaque fois, on nous répond que ce n'est pas, enfin, qu'on ne peut rien faire, ce n'est pas un délit. Et donc, à ce moment-là, on se dit, bon, bah d'accord, il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes. Après le commissariat, l'assistante sociale, on décide d'en parler à sa mère, de lui demander si sa fille est malade. Elle nous dit que non. Et donc, dans la foulée, je décide d'appeler Alice et de la confronter. Et après plusieurs heures au téléphone, avec des explications qui tiennent plus ou moins la route, je lui demande si oui ou non elle a la mucoviscidose et elle me répond que non, elle ne l'a pas et on raccroche à ce moment-là. À ce moment-là, ce que je ressens pour elle, c'est très très contradictoire. Je sais pertinemment que notre relation ne pourra plus jamais être celle qu'elle a été. Je sais que c'est terminé et je suis vraiment partagée entre de la haine parce qu'elle m'a détruite, enfin vraiment, mais à la fois de l'amour, parce que ça ne peut pas non plus disparaître en un instant, parce qu'il y a de l'emprise énormément, c'est-à-dire que même après avoir découvert tout ça, même après m'être rendu compte de tout ce qu'elle avait fait, je continue à vouloir l'aider, je continue à vouloir être celle qui l'aide, qui l'accompagne, alors qu'il n'y a aucune raison pour que je fasse ça. Et donc c'est vraiment des sentiments qui se mélangent et j'arrive pas à partir, en fait. J'arrive pas, et elle me laisse pas partir non plus. C'est ça aussi qui est compliqué. Après l'avoir confrontée, je me dis qu'elle va s'arrêter, que là, tout est découvert, qu'il n'y a pas de raison qu'elle continue, surtout que voilà, tout le monde est plus ou moins au courant qu'elle a menti, donc aucune raison pour elle de continuer. Et je lui parle encore un petit peu, parce que je continue à être un peu l'interlocutrice entre elle, les autres. Et ma porte de sortie, c'est mon Erasmus à Berlin. Fin 2016, donc je suis en Erasmus à Berlin et tout va bien, tout va mieux. Je dors mieux, je mange mieux, ça va mieux, j'ai moins peur. Et moi qui me disais quelques semaines auparavant qu'elle allait arrêter, j'apprends en fait qu'elle continue auprès de certains de ses amis et auprès de nouvelles personnes aussi. Et donc, avec le groupe de victimes qu'on avait formé, on décide de passer un peu à la vitesse supérieure et de prévenir les gens autour d'elle, leur dire qu'elle ne va pas mourir, qu'elle n'est pas malade. Et là, en fait, on se rend compte que ça ne change pas grand-chose. Certains sont plutôt bien réceptifs et comprennent, sont d'accord avec nous, avec notre démarche. Et sinon, c'est beaucoup d'insultes, beaucoup de personnes qui nous expliquent que c'est la Alice qu'ils aimaient et que bah, y a pas de raison que ça change. Alors qu'on essaie de leur dire que bah, la liste qu'ils aiment n'a jamais existé, en fait. Et donc voilà, ça reste très compliqué. Et en fait, on se dit qu'il n'y a vraiment pas moyen que ça s'arrête. En fait, on ne sait plus quoi faire à ce moment-là. En mai 2017, donc je suis toujours à Berlin. Et un soir, alors que j'ai une amie à la maison, j'apprends qu'Alice n'a pas simplement raconté qu'elle était malade. Qu'elle avait été greffée, etc. Non, non. Elle raconte aussi qu'elle a une meilleure amie qui s'appelle Louise et qui est morte d'anorexie à 3 ans. Et ça, quand je l'apprends, je suis en train de regarder Le Seigneur des Anneaux avec mon amie et j'explose. Je me mets à trembler, à pleurer. J'appelle ma mère, j'appelle ma sœur, j'appelle ma famille, mes amis. Et je leur dis qu'elle n'a pas le droit. C'est les phrases, je répète, les phrases en boucle, c'est « Elle n'a pas le droit. Elle a le droit de toucher à tout. Elle peut prendre tout de moi, je m'en fiche. Mais pas ça. Elle n'a pas le droit de prendre l'anorexie, d'en faire quelque chose à elle, de l'utiliser pour se plaindre, pour se faire plaindre. Moi, j'ai vraiment été malade. Moi, j'ai vraiment failli mourir. Et on ne rigole pas avec ça, en fait. C'est pas un jeu. Et j'accepte tout. Tant pis, elle peut faire ce qu'elle veut, mais pas ça. Elle n'a pas le droit de faire ça. » Et je pleure pendant une heure, je tremble, je hurle, je suis juste dévastée. Et en fait, je me dis qu'il faut que je lui parle, qu'il faut qu'elle comprenne à un moment donné que ça s'arrête, en fait. Et donc, je la contacte quelques jours après, je lui envoie un message en lui disant que j'espère que mon oraison funèbre était belle et qu'elle avait bien pleuré, qu'elle avait bien fait son show. Je lui demande pourquoi elle m'a fait mourir. Je lui explique que voilà, elle n'a pas le droit de faire ça, que l'anorexie, c'était réel et c'est ma maladie, c'est à moi. Et elle me dit qu'en fait, elle a tellement mal de ne plus m'avoir dans sa vie que c'est comme si j'étais morte et que c'est plus facile pour elle de raconter que je suis morte, en fait, que d'assumer le fait que je ne sois plus là. Et c'est vraiment... Enfin, c'est un raisonnement que je ne comprends pas. Je suis en colère, mais vraiment, là, c'est de la haine. C'est même plus de l'amour. Là, c'est vraiment de la haine et de me dire, mais comment elle peut faire ça? Comment elle n'a pas le droit? Et ça se termine, en fait, cette discussion assez brutalement, en fait. J'ai juste à un moment donné, on arrête de s'écrire. Il n'y a pas un moment donné où elle me dit qu'elle est désolée d'avoir utilisé ça, qu'elle n'aurait pas dû. Non, non. C'est pour elle, c'est légitime parce que je lui manque tellement que c'est comme si j'étais morte. Après avoir appris qu'elle continue de mentir, on décide avec le groupe de victimes de monter un dossier qu'on envoie au procureur de la République avec donc des témoignages, etc. Et en juillet, donc quelques mois après avoir envoyé ce dossier, on est contacté par un officier de police qui nous indique qu'une enquête a été ouverte. Mais encore une fois, en fait, ça va très vite s'arrêter parce que ce n'est pas un délit, qu'on ne peut rien faire. Et on nous dit juste, bah, vivez avec, tant pis pour vous. Et c'est très dur, parce qu'en fait, on n'a pas de reconnaissance de statut de victime. On nous dit juste, ah bah oui, c'est triste. Aujourd'hui, 8 ans ont passé depuis que je l'ai rencontrée. Il y a toujours beaucoup de conséquences sur ma vie, notamment rien que sur mes amitiés. En fait, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à croire ce qu'on va me raconter. J'ai souvent besoin de preuves, de faits réels, et si j'en ai pas, j'écoute la personne, il n'y a pas de problème, j'écoute ce qu'elle a à me dire, mais je ne m'implique pas émotionnellement, je peux trouver des petites solutions, voilà, essayer d'aider, mais sans implication émotionnelle. Sans preuve, pour moi, ça n'existe pas, et donc je prends ça un peu à la légère. Je ne sais pas si j'ai besoin aujourd'hui de prendre plus de distance ou si c'est juste une manière de me protéger. Je pense que des fois, j'aimerais bien m'autoriser à être plus proche et plus investie et plus... Mais j'ai un peu peur de me faire du mal, en fait. Je pense que c'est un petit réflexe de défense, en fait, un mécanisme de défense aujourd'hui. Je pense que la Alice que j'ai aimée n'a jamais existé. Et je pense avoir aimé l'image qu'elle voulait me donner d'elle. J'ai aimé une Alice malade, une Alice à qui je faisais confiance, en fait, une Alice qui était proche de moi, qui était intime, mais étant donné que tous ces éléments d'intimité étaient faux, j'ai aimé ce qu'elle voulait me laisser voir, en fait, et ce qu'elle a créé. J'ai aimé le personnage qu'elle a créé, mais je ne l'ai pas aimé elle. Elle, je ne la connais pas, en fait, la vraie Alice.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Hortense Chauvin. La musique a été composée par Maxime Daoud. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Il a été produit sous la direction de Maureen Wilson, responsable éditoriale. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler sur les réseaux sociaux et à suivre les comptes Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Bien sûr, vous pouvez continuer de m'écrire sur Instagram, @chapudelot. À très vite.